Vous écoutez, on lit pour vous.
Le bonheur sans dépenser assez. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Que ce soit avec une pointe d'admiration ou plus souvent d'agacement, mes copines me qualifient régulièrement d'écureuil. Je ne dépense pas assez, semble-t-il, et à l'évidence, ça dérange. Certes, je ne suis pas un cordonnier mal chaussé et qui écrit sur les finances personnelles tout en vivant de paye en paye. J'ai entièrement remboursé mon hypothèque il y a quelques années, j'ai acheté ma petite voiture usagée, content, et mon REER est plein. Pourtant, je n'adopte pas tous les judicieux conseils de mon collègue, Nicolas Bérubé, qui se déplace surtout à vélo et privilégie le minimalisme vestimentaire. Confidence gênante, mes placards débordent de robes. Je voyage, j'assiste régulièrement à des concerts. Il va me le pardonner, puisque, comme lui, je ne rêve pas de rouler en BMW et je ne commande jamais de pizza. J'aime avoir les mains dans la pâte et épargner 40 $ par le fait même. Cette combinaison peut sembler insignifiante dans une planification financière. C'est plutôt la preuve qu'on peut être heureux sans dépenser beaucoup. À moins de vivre avec des revenus très faibles, on peut épargner sans constamment avoir l'impression de se priver. Mais, intuitivement, ces notions semblent paradoxales. Lorsqu'il est question d'argent, je constate que l'expression « je veux vivre » justifie beaucoup d'achats censés rendre plus heureux. Mocktail à 12 $, piscine creusée, fin de semaine dans un chalet avec spa, iPhone 16 Pro. Le hic, c'est que la définition du mot « vivre » change grandement au cours de la carrière et des augmentations de salaire. Ce phénomène est assez curieux quand on y pense. Dans l'un de ses spectacles, Louis-José Houde se demandait à quelle heure de la nuit on est soudainement frappé par la mauvaise haleine. Le même genre de question se pose en matière de finances personnelles. À quel moment un VUS avec des sièges chauffants en cuir devient-il nécessaire au bien-être? À partir de quand a-t-on besoin de boire des cafés à 7 $ pour se sentir en vie? Quand est-ce que les lunettes, les sacs à main et les montres griffées font tout à coup partie de l'équipement de base pour se présenter en public? On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais nos besoins prennent souvent de l'ampleur plus rapidement que nos revenus. Résultat, les dettes de consommation sont monnaie courante. L'endettement non hypothécaire moyen s'élève à 21 859 $ par personne au Canada. Au Québec, ces dettes atteignent 18 985 $, 2 % de plus sur un an, selon Equifax. De son côté, Statistique Canada calcule que chaque ménage doit 1,74 par dollar gagné. Comme l'a déjà écrit Nicolas, « Je travaille fort, je peux me le permettre » est un très mauvais guide pour nos finances. Cette philosophie nous amène bien souvent à faire des choix trop coûteux. En résistant tout simplement à la tentation de s'inventer de nouveaux besoins, on accroît sa capacité d'épargne au fil du temps sans se priver. C'est mathématique et drôlement efficace dans mon cas. j'ai demandé à mes amis de m'énumérer mes autres comportements qui leur font dire que je suis un écureuil. Quand tu voyages, tu échanges ta maison. C'est beaucoup plus commode pour avoir de l'espace, des jouets pour fiston, une piscine privée et une cuisine pour préparer des pique-niques. J'aime découvrir les cultures à travers l'aménagement, la décoration et le contenu des lieux qu'on me prête. Vous n'avez qu'une seule voiture? Je préfère pouvoir lire dans le transport en commun plutôt qu'être prise dans les embouteillages sur le pont. En plus, il n'y a pas de stationnement à la presse et ça me permet de faire quelque chose pour la planète. C'est aussi par conscience écologique que j'ai remplacé le joint d'étanchéité de mon vieux frigo. Surprise, il fonctionne encore. Plutôt que d'en acheter un neuf qui envoie des textos. Tu apportes toujours ton lunch au bureau. Ça m'évite de sortir au froid l'hiver, qui dure 9 mois par année selon mes standards, et de manger plus santé qu'au restaurant. Tu cuisines beaucoup. C'est mon passe-temps préféré, celui qui me permet de décrocher, d'user de créativité, d'améliorer mes techniques, notamment en matière de pain et de pâte à pizza. Quand je vais au restaurant, c'est pour manger des plats compliqués, comme le doro wat ou la pastilla. Tu ne t'achètes pas de bijoux en or ou de diamants. Tu portes toujours les mêmes bagues en argent. Question de goût. Le métal jaune ne me plaît pas particulièrement. Et les diamants, ça accroche dans les bonnes nylons. Tu achètes tout au rabais. Si je peux étirer chaque dollar que je gagne, je ne vois pas pourquoi je me priverais de cette satisfaction. Même chose pour les gratuités obtenues avec mes cartes de points et de crédit. Ces dernières années, j'ai obtenu au moins 3 000 $ d'épicerie gratuite. Je ne compte plus les pleins d'essence, les billets d'avion, les produits de pharmacie et les bouteilles de vin qui ne m'ont rien coûté. C'est devenu un jeu. Tu n'es abonné à aucune plateforme de streaming. Je paie pour le bon vieux câble et je n'arrive même pas à regarder tout ce qui m'intéresse à Télé-Québec, TV5, RTV, Explora et RDI. N'en rajoutez pas, la cour est pleine. Comme quoi, on peut aussi trouver toutes sortes d'arguments pour justifier de faibles dépenses. C'était Le bonheur sans dépenser assez. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Travailler en milieu agricole pour son premier emploi. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 2 août 2025 dans Le Devoir. L'été, c'est aussi la saison des premiers boulots, dont certains qui ont offert à des Québécois des moments mémorables, sinon marquants pour le reste de leur vie. Une lectrice du Devoir raconte son premier emploi qui était en milieu agricole. De son premier travail d'été, Caroline Théberge retient deux odeurs, celle du caoutchouc et des concombres. À l'âge de 14 ans, cette cinquantenaire a passé 3 mois couchée à plat ventre sur une plateforme à cueillir des concombres dans un champ. Cet emploi a fait comprendre deux choses à cette fille de la ville. Que les travailleurs agricoles méritent tout notre respect et que, somme toute, le travail de bureau était davantage dans ses cordes. En 1985, Caroline Théberge, qui résidait à Tracy, devenue Sorel-Tracy en 2000, avait envoyé des CV un peu partout, sans succès. C'était difficile de trouver du travail pour les étudiants à l'époque. Les seuls jobs qu'on trouvait, c'était dans les champs, relate-t-elle. Et la voilà donc embauchée par un cultivateur de Saint-Robert. de 6h à 17h, étendue sur une plateforme tirée par un tracteur. Les employés récoltent les concombres dans un champ. Une fois la technique maîtrisée, leurs mains agiles déposent les cucurbitacées sur un rail qui les achemine à la remorque. On avait la tête à 15 cm du sol, avec les bébites et tout. On portait des beaux gants à vaisselle, se souvient-elle. Après une journée intensive de travail sur la plateforme qui se déplace dans les rangs, pas facile de se réajuster à la vie normale. Quand on se couchait le soir, on avait l'impression que le lit avançait tout seul. Caroline Théberge appréciera suffisamment l'expérience pour participer, l'année suivante, à une deuxième saison de récolte. Des décennies plus tard, elle n'a pas oublié l'odeur des gants de caoutchouc portés toute la journée pour protéger les mains de cueilleurs des épines, des concombres et des tiges. Mais ce travail harassant ne l'a pas complètement dégoûté des concombres. « Ça m'a pris un peu de temps avant d'en manger à nouveau », admet-elle tout de même. Découvrir sa vocation ou pas. Il y a des gens qui trouvent leur vocation après avoir occupé un emploi marquant dans leur jeunesse. Pour Caroline Théberge, cet emploi d'été lui a, au contraire, permis de comprendre que le travail physique au grand air n'était vraiment pas fait pour elle. Elle a par la suite occupé d'autres emplois exigeants physiquement, notamment comme concierge dans une buanderie industrielle et même, brièvement, dans une teinturerie de chaussettes. Je ne pensais pas que cette job existait. Je me suis dit « Oh que non, je ne ferai pas ça toute ma vie. Je vais poursuivre mes études. » Mais loin de dénigrer ces emplois harassants, elle juge qu'il est formateur de les expérimenter. Les gens qui occupent ces emplois essentiels ont tout son respect, dit-elle. Il faut le faire, je pense, pour apprécier ce qu'on a après. Chapeau à ces employés-là. Aujourd'hui, Caroline Théberge travaille dans la fonction publique en gestion documentaire, où elle a gravi les échelons de la hiérarchie. Elle vit du stress, mais elle aime son travail, loin des champs, du soleil ardent et des insectes. Bien des fonctionnaires n'ont pas de raison de se plaindre, croit-elle. On a des fonds de pension, on a des belles conditions de travail, on n'a jamais eu peur, pendant la pandémie, de perdre notre emploi. On est mal placé pour chialer. La cueillette de concombres l'a même aidée à trouver son premier emploi dans son domaine d'études, la gestion documentaire. Il y a une personne qui m'a engagé dans sa compagnie parce que dans mon CV, c'était écrit que j'avais ramassé des concombres. Elle m'a dit que ça lui démontrait que j'étais travaillante, relate-t-elle. Comme quoi tout ce qu'on fait, même si ça n'a pas l'air significatif, a son importance. Dans son bureau, loin des gants de caoutchouc humides, de la chaleur et des insectes, Caroline Théberge est heureuse de son sort, même si parfois on y côtoie de beaux concombres, dira-t-elle. C'était « Travailler en milieu agricole pour son premier emploi », un texte de Jeanne Corriveau paru le 2 août 2025 dans Le Devoir.
Fini la vaisselle jetable en France. Un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 3 août 2025 dans la presse. La vaisselle réutilisable est désormais obligatoire dans la restauration rapide en France. Mais au Québec, où nous ratons nos objectifs de réduction des déchets, les vacanciers qui se lancent à l'assaut des casse-croûtes ne voient que des emballages jetables. Sauf s'il passe par Terrebonne. Paris, France. Une boisson gazeuse, un cornet de frites et un bol de croquettes de poulet. Un repas classique de la restauration rapide, à la différence notable qu'il est ici servi dans de la vaisselle réutilisable. La chose n'a rien d'anecdotique en France, qui est devenue en janvier 2023 le premier pays du monde à interdire la vaisselle jetable dans les restaurants pour les repas consommés sur place. Ça a réduit beaucoup, beaucoup les déchets qu'on génère, raconte Mathieu Chopard, conseiller en exploitation chez Bio Burger, qui compte 26 succursales en France, dont 11 à Paris. L'interdiction cadre bien avec les valeurs écologistes de la jeune chaîne française de fast-food amélioré, qui sert uniquement des produits biologiques, frais et principalement locaux, indique Mathieu Chopard. Ce qui est difficile, dit-il, c'est l'installation, mais une fois qu'on est lancé, ça va très bien. Il a fallu modifier la cuisine de certains restaurants, former les équipes, sensibiliser la clientèle et même adapter le système informatique de gestion des commandes. Il faut qu'en cuisine, on sache quel repas est pour emporter et quel est pour consommation sur place, puisqu'ils sont désormais servis dans des contenants différents, illustre Mathieu Chopard. Bio Burger estime avoir réduit ses déchets d'une tonne par restaurant par année, ce qui se traduit par des économies de 7 000 euros, 11 000 $ par restaurant, compensant entièrement les investissements initiaux. L'interdiction nécessite de 30 à 60 minutes de travail supplémentaire par jour pour gérer le lave-vaisselle et le tri des plateaux, estime Mathieu Chopard. On a enlevé toutes les poubelles pour éviter que la vaisselle s'y retrouve, explique-t-il. Grande chaîne peu enthousiaste. Les grandes chaînes de restauration rapide affichent moins d'enthousiasme que Bio Burger. McDonald's affirme par exemple qu'il n'est pas démontré que la vaisselle réutilisable est une solution plus écologique, en tenant compte de la consommation d'eau, de détergents et d'énergie que le lavage nécessite. Objectivement, je suis incapable de dire aujourd'hui quel système est le meilleur, a déclaré à la presse Yannick Augrand-Denis de la firme de relations publiques qui gère les communications de McDonald's en France. La multinationale états-unienne s'est néanmoins conformée à la loi et est même l'un des meilleurs élèves de l'avis de l'organisation écologiste Zero Waste France, Zéro Déchet France. On est leader sur notre marché. On se doit d'être exemplaire, indique M. Augrand-Denis, affirmant que l'adaptation a nécessité des investissements de 100 000 euros, 156 000 $ par restaurant en moyenne, pour un total de 156 millions d'euros, 243 millions de dollars à l'échelle de la France. Dans 95% des succursales, la vaisselle est lavée sur place, mais certaines ont dû se tourner vers un service de plonge externalisé, explique-t-il, entraînant parfois des ruptures d'approvisionnement, ce qui explique que les repas y sont parfois exceptionnellement servi dans de la vaisselle jetable. La célèbre chaîne, qui a opté pour une vaisselle ludique, reproduisant le code McDo, a aussi fait face à un phénomène de vol massif. Au début, on a eu près de 40% de la vaisselle qui était volée, révèle M. Augrand-Denis. La presse a elle-même constaté le phénomène à l'aéroport quand un voyageur a sorti de son sac la version réutilisable de l'iconique cornet de frites rouges de McDonald's à son passage à la sécurité. Burger King n'a pas donné suite aux nombreuses sollicitations de la presse, tandis que la chaîne poulet frit Kentucky, connue en France sous son sigle anglais KFC, n'a pas voulu répondre aux questions. Ce n'est pas un sujet prioritaire pour nous, a déclaré Lina Bourlet de l'agence de relations publiques de KFC France, disant ne pas vouloir accaparer le temps d'une personne pour en parler. La plupart des restaurateurs ont opté pour de la vaisselle lavable en plastique, ce qui inquiète Zero Waste France en raison de sa durabilité et de la migration possible des contaminants dans les aliments. Bonne loi, mais application déficiente. L'interdiction de la vaisselle jetable, qui découle de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, est ambitieuse, salue Zero Waste France, qui dénonce toutefois un manque de volonté politique pour la faire respecter. les restaurateurs n'ont pas suffisamment été contrôlés au moment de la mise en œuvre, donc il n'y a pas eu assez de sanctions pour les contrevenants, déplore Noémie Brouillard, chargée de projet de l'organisation. Les amendes, allant de 1 500 euros à 15 000 euros, de 2 350 $ à 23 500 $, ne sont pas assez dissuasives, ajoute-t-elle. Près de 300 inspections ont été réalisées en 2023 et plus de 90 en 2024 sur les milliers de restaurants que compte la France, a indiqué dans un courriel à la presse le ministère français de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ajoutant que les amendes ont été augmentées et peuvent désormais aller jusqu'à 45 000 euros, 70 000 $. Le ministère, qui a décliné la demande d'entrevue de la presse, n'a pas répondu aux questions quant au nombre d'amendes qui ont été imposées et leur montant. Zero Waste France déplore aussi un flou dans la loi, qui fait en sorte que le papier d'emballage des hamburgers demeure autorisé, tout comme les sachets de condiments. Ces derniers seront toutefois interdits en 2030 en vertu d'un règlement européen. L'organisme espère maintenant que l'interdiction sera élargie aux emballages de repas pour emporter, dont la vente a explosé depuis la pandémie de COVID-19, et prévient qu'une telle interdiction ne pourra réussir que si l'État facilite l'implantation de solutions universelles. En savoir plus. 20 milliards. Nombre de couverts, gobelets, assiettes et autres contenants jetables qui finissent à la poubelle chaque année en France, totalisant 200 000 tonnes de déchets, soit l'équivalent de 20 tours Eiffel. Source : Ministère français de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. 1560. Nombre de restaurants McDonald's en France, soit davantage que ses concurrents Burger King, KFC et Quick réunis. Source : McDonald's France, Terrebonne, pionnière au Québec. Terrebonne, pionnière au Québec. À des milliers de kilomètres de la France, Terrebonne a aussi interdit la vaisselle jetable dans les restaurants pour les repas consommés sur place. Le réputé casse-croûte Tiwil Patate s'opposait farouchement à la mesure dont il vante aujourd'hui les mérites. La réputée poutine de Tiwil Patate est désormais servie dans un bol en plastique et on l'engloutit avec une fourchette en métal. Les verres, bols, assiettes, ustensiles, barquettes et autres éléments de vaisselle jetables sont désormais interdits pour les repas consommés sur place, à Terrebonne. Seul le papier alimentaire, les godets de papier pour les condiments ou les sachets individuels demeurent autorisés. On économise beaucoup sur l'achat de contenants, se réjouit le copropriétaire Michel Gagné. En réduisant de moitié l'achat de vaisselle jetable, toujours utilisée pour les commandes à emporter, il épargne 1 000 par mois et 200 $ de plus en ayant réduit de 60 % la quantité de déchets générés dont il devait payer la collecte. Michel Gagné est gêné de s'être autant opposé à la mesure quand elle est entrée en vigueur en mars 2023. On ne voulait pas. On disait « non, 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 on ne fera pas ça », se rappelle-t-il. Ça fait peur. Mais finalement, ce n'est pas trop compliqué, estime-t-il aujourd'hui, qualifiant les changements qui ont dû être implantés de « petits ajustements ». Les gens sont contents de manger avec de vrais ustensiles, constate le copropriétaire Michel Gagné. En revanche, les verres en plastique semblent moins appréciés. Mais il préférait cette option à ceux en verre, plus chers et plus cassables. « On a tout acheté sur Amazon », dit-il, ajoutant que la dépense a été rapidement amortie. L'interdiction n'a pas alourdi les tâches ni nécessité l'ajout de main-d'œuvre, affirme Michel Gagné. L'employé qui vidait les poubelles s'occupe maintenant de débarrasser le chariot de plateau. et l'installation d'un lave-vaisselle qui a été subventionné à 75 % par la ville simplifie le reste. C'est lui qui travaille, lance Michel Gagné en riant. Terrebonne est la seule municipalité québécoise à avoir adopté une telle interdiction, mais elle aurait préféré que la mesure soit pan-québécoise. C'est sûr que ça aurait été plus simple, tranche le conseiller municipal Marc-André Michaud, président de la Commission de la transition écologique et de l'environnement de la ville. Notamment pour les grandes chaînes, qui pourraient appliquer la même recette dans toutes leurs succursales. Quelques 400 commerces de Terrebonne sont assujettis au règlement interdisant la vaisselle jetable, dont ce restaurant McDonald's. Plus de 90 % d'entre eux se sont conformés, se réjouit Marc-André Michaud, et la ville accompagne les récalcitrants. La ville a tout de même donné 5 constats d'infraction pour des cas de non-conformité persistante. Les amendes oscillent entre 200 et 2000 $. Avec le plus grand site d'enfouissement du Québec, Terrebonne est aux premières loges pour constater le problème de la quantité de déchets générés par la société. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose, réduire à la source, donner l'exemple. Pas juste moraliser les autres villes, raconte Marc-André Michaud. D'autant plus que Terrebonne n'était pas particulièrement exemplaire à ce sujet, reconnaît-il. Prévost a de son côté opté pour une mesure d'écofiscalité, en imposant une redevance à l'utilisation de vaisselle jetable tout en développant un système de contenants réutilisables consignés. On offre des solutions en premier et après, on adoptera une interdiction, a indiqué à la presse Frédéric Marceau, directeur du service de l'environnement de la ville, estimant lui aussi que des mesures pan-québécoises seraient préférables. Le gouvernement québécois pourrait s'inspirer de telles mesures, mais il a confirmé à la presse ne rien avoir dans les cartons. Québec n'a d'ailleurs toujours pas déposé sa stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques, promise pour 2024 et ignore quand elle le sera. Cette stratégie visera la réduction du plastique et la substitution des produits jetables par des produits plus durables. C'était Fini la vaisselle jetable en France, un dossier de Jean-Thomas Léveillé, paru le 3 août 2025 dans La Presse.